Petit test de micro, bienvenue sur le point G.
Et bienvenue, 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 zonzon.
Il faut que t'évites de parler comme ça aussi près, parce que ma voix ensuite est différente.
Désolé si tu n'as pas de charisme vocal.
Désolé si t'es une merde.
C'était un petit autotune de Gaspard G.
Et de Guillaume Ménèche. Bienvenue sur le point G.
Le point G.
Que le point G.
Le point d'oreille.
On va parler du point G ce matin, on en entend beaucoup parler.
On sait jamais trop ce que ça veut dire.
Alors, G.
Guillaume Ménèche.
Guillaume Ménèche.
Gaspard G.
Avec Gaspard G.
Vous écoutez le point G.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est le décès
de la voiture de mon papa. En hommage à celle-ci, nous avons décidé
de renommer ce podcast La voiture de papa.
Et surtout, de faire un débat sur le carburant et les gilets jaunes.
Oui, c'est pas mal. Au sommaire de cette émission, un débat, chers amis, puisque vous nous l'avez demandé. Ça fait quelques épisodes déjà que le débat est absent du point G. C'est le retour des vrais super méga gros coups de cœur, le retour de vrais actus. Bref, c'est le retour du point G en bonne uniforme. Et pour commencer cet épisode, évidemment, c'est le
JT, comme d'habitude.
On commence ce tour de l'info commenté par Guillaume Ménèche.
Alors, Radio-Canada et Le Monde nous apprennent aujourd'hui, comme la grande majorité des médias internationaux, que Carlos Ghosn, qui est le président directeur général du groupe Renault Nissan Mitsubishi, a été arrêté par la justice japonaise, donc à Tokyo lundi, et qu'il subit depuis lors des interrogatoires qui vont se prolonger sur 10 jours de garde à vue. Carlos Ghosn, qui est aujourd'hui l'un des plus gros patrons français, hein, puisque Renault est l'un des plus gros groupes automobiles du monde, Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir caché une partie de ses revenus et de ne pas avoir déclaré près de 10 milliards de yens, ce qui représente près de 60 milliards de dollars canadiens et donc à peu près 35 millions d'euros. Ce n'est pas rien, c'est énormissime. Et on peut comprendre aujourd'hui la colère des salariés de Renault aujourd'hui qui constatent finalement qu'ils ont un patron qui ne déclare pas les revenus et qui finalement paye au SMIC ses salariés. Par rapport à ça, l'exécutif de Peugeot a décidé de placer Thierry Bolloré comme PDG de Renault en intérim. Je trouve ça vraiment très très drôle. Hein. On a vraiment l'impression d'avoir une sorte d'inceste entre patrons français et qui se placent là où il faut se placer et qui finalement ne déclarent pas les revenus. On verra ce que la justice japonaise dira de tout cela.
Que justice soit faite pour notre ami Carlos.
Et je précise bien sûr que ceci n'est pas jugeable en France puisqu'il s'agit des revenus générés par Nissan et Mitsubishi qui sont encore des boîtes japonaises, ce qui fait que normalement la justice française ne pourra rien faire dans cette affaire.
Pour cette deuxième info, on va encore parler un peu de justice française. Je vais vous parler de justicier francophone, une espèce de Robin des Bois belge qui s'est insurgé cette semaine. Un étudiant à l'université belge de Louvain qui interpelle Emmanuel Macron en visite. Sur la banderole déployée dans le parterre des étudiants belges, on pouvait lire en grosses lettres « Le sang coule de leurs mains, renseignez-vous ». Mais les mains de qui, demande alors notre cher président de la République Emmanuel Macron sur la scène, aux côtés du Premier ministre belge Charles Michel, lors d'une rencontre ce mardi 20 novembre avec 800 étudiants quand même qui étaient présents sur place. L'un des participants interpelle donc alors Macron en lui disant « Pourquoi vous matraquez vos étudiants? Pourquoi vous êtes le seul pays qui utilise des grenades contre sa propre population ?»« N'importe quoi !» répondra alors notre président de la République. Mais comme ce dernier n'avait pas terminé de répondre à une précédente question, il leur a dit tout simplement d'attendre leur tour poliment et de ne pas mettre surtout des papiers partout avec leur banderole parce que quelqu'un va les ramasser et ça ne serait certainement pas lui.
Et finalement, personne les a ramassés et le mec s'est barré.
Finalement, l'étudiant qui a été invité par Macron du coup a posé une question en bonne uniforme ne l'a pas fait. Est parti de son plein gré, n'a pas été viré par la sécurité, chose à laquelle s'est opposé Emmanuel Macron, parce que quand l'organisatrice de la salle a voulu faire virer les manifestants, Macron s'y est opposé. Mais Macron a quand même répondu de ses actes, forcé de constater que ce dernier a été fort habile des mots. Puis en soi, bon, l'information de manifestants qui perturbe un politique, c'est pas très grave, on s'en fout un peu. Emmanuel Macron ne s'est pas laissé démonter et maîtrise très bien cet exercice oral de l'improvisation.
La NASA va enquêter sur la consommation de drogue chez SpaceX et Boeing. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce podcast. En vérité, il a fait quand même assez fureur sur les réseaux sociaux.
Extraordinaire.
Elon Musk, le patron de SpaceX, qui était aussi le créateur de PayPal. Aujourd'hui, Elon Musk, qui symbolise le milliardaire jeune, beau gosse, playboy.
Beau gosse, je sais pas, mais monstre entrepreneurial, ça c'est sûr.
En tout cas, un peu à Tony Stark dans Iron Man, tu vois. D'ailleurs,
c'est faut vraiment savoir que, Tony Stark.
Il faut savoir que Iron Man a été inspiré par Elon Musk. Et finalement, Elon Musk avait, pendant ce podcast, fumé un joint en direct. Ça a fait scandale parce que le podcast a été visionné 90 000 fois en quelques heures. Bien sûr, l'action et le cours de SpaceX en bourse est à chuter, mais royalement.
C'est pas vrai, ah oui.
Parce qu'il y avait un côté genre, que fait Elon Musk à fumer comme ça, ça décrédibilise l'entreprise. Elon Musk a été démis de ses fonctions du président du conseil d'administration de SpaceX à partir de ce moment-là, bien qu'il conserve toujours ses parts. Et figurez-vous donc que la NASA a décidé de se lancer dans une enquête, déclencher une enquête de la police pour vérifier la fiabilité et le sérieux de ses partenaires, dont SpaceX et Boeing, qui ont affirmé ne pas avoir de drogue dans les espaces de travail. Bien sûr, Elon Musk n'a pas encore réagi au moment où je vous parle, mais en tout cas, ça risque d'être assez marrant dans les prochaines semaines et surtout de voir comment ils vont se sortir de là, puisque cette affaire pourrait être dramatique pour SpaceX, puisque la NASA offre une partie de ses infrastructures pour le développement des fusées SpaceX. Ça provoquerait quelque chose d'assez grave, puisque cela provoquerait tout simplement la faillite de l'entreprise.
Et pour ne pas déroger à la règle, je vais faire une petite transition nulle. Moi, j'ai encore envie de vous parler de la folie américaine.
Bah si, c'était une transition, mais vraiment.
Un homme a été tué, là, aujourd'hui.
Franchement, il s'est fait tuer, découper.
Un homme a été... Non, mais on permet de rigoler, parce que c'est assez risible comme mort. Un homme a été tué par la tribu isolée des sentinelles qu'il tentait d'approcher. tu connais les sentinelles, Guillaume ?
Non.
Alors, les sentinelles, c'est un peuple chasseur-cueilleur qui vit coupé du monde. Alors, okay, a priori, chasseur-cueilleur, tu vois, c'est pas très, très effrayant. Sauf que ces derniers vivent quand même coupés du monde extérieur depuis des millénaires sur l'île de North Sentinel, dans les îles Andaman.
C'est où, ça ?
C'est un archipel dans l'océan Indien, rattaché à l'Inde, souvent décrite comme la tribu la plus isolée de la planète, coupée de la civilisation et hostile au monde moderne. Ses membres vivent en autarcie depuis des siècles sur cette île que l'État indien interdit depuis 2010 d'approcher à moins de 5 km, tellement c'est incroyable. Dangereux. Alors c'est assez dingue, ce peuple de schtroumpfs, de petits gaulois, mais indiens, ce peuple de chasseurs-cueilleurs qui compterait une quarantaine de personnes, hein, tout de même, s'attaque d'ailleurs à quiconque pose le pied sur sa petite île, de la mer d'Adaman. Le 16 novembre, c'est John Shaw, un globe-trotteur américain de 27 ans venant d'Alabama, un espèce de Christopher McCandless, je vais dire Christopher Castaner, mais c'est un aventurier aussi, voilà. Remarque. Hein. Mais Christopher McCandless des temps modernes, venant d'Alabama, a été encerclé et tué à peine arrivé sur l'île. Il avait payé des chasseurs pour le transporter jusqu'à ce lieu, situé au large, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Port Blair, là où il séjournait. Mais il a évidemment fini le trajet seul, en petit canoë. Son corps a été retrouvé, traîné, une corde au cou et surtout criblé de flèches. Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? On passe au débat.
Et si c'était le moment du grand débat ?
Tout ça afin que vous soyez mieux éclairés dans 2 heures. Bon débat.
Mais juste avant le grand débat, j'aimerais dire bonjour à quelqu'un que tu connais, Guillaume.
Ah ouais ?
Quelqu'un qui m'a beaucoup parlé de toi.
Ah ouais ? Ta maman ?
Non, mais c'est une maman.
La maman d'Isia ?
Oui. J'ai eu Laurence hier au téléphone.
Pourquoi tu es Laurence ?
J'ai eu Laurence, la maman d'Isia, hier au téléphone, qui nous disait « Oh là là, le projet, c'est moins long qu'avant, etc. Bah, » J'ai mis ça sur ton dos, j'ai dit « Oh, écoutez, Guillaume est débordé. » Voilà, c'était le petit coucou de la semaine.
Voilà.
Oh, c'est pas mal, ça.
C'est pas mal, le petit coucou de la semaine.
Le petit coucou de la semaine à Laurence.
C'était le petit coucou de la semaine. Et c'est parti, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet... D'un sujet que vous connaissez.
D'un sujet qui terrorise la France depuis quelques jours. D'un sujet qui empêche Guillaume de dormir correctement. Guillaume en est fou, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. @GuillaumeBenesh. Allez le suivre si vous aimez Macron, si vous aimez le néolibéralisme. Si vous détestez vous aussi les gilets jaunes et tous les pédants qui se foutent en plein milieu de l'autoroute. Allez suivre GuillaumeBenesh.
Je vous appelle.
L'anti-anarchiste. Pourquoi tu n'aimes pas les gilets jaunes, Guillaume ?
Pourquoi je n'aime pas les gilets jaunes, Gaspard ? Tu sais quoi ? Je vais te proposer de lancer, toi, de me dire exactement ce que tu penses de ces mouvements.
Bien que je sois quelqu'un d'assez engagé et quelqu'un qui ait des points de vue dans la vie, a priori, les gilets jaunes, ça ne me fait ni chaud ni froid, excepté quelques incidents qui me font dire que, ah putain, à certains moments, ils sont un peu casse-couilles. Pour moi, je vois dans les Gilets jaunes un grand rassemblement, une énorme manifestation anti-Macron, bon, pour certaines réformes en particulier, hein, qui sont quand même pointées du doigt, mais un grand rassemblement anti-Macron. Et à partir de là, je ne peux pas m'y opposer. Je veux dire, dans une société totalement libre, où on a le droit de manifester, parce que sinon ça s'appelle une dictature, ouais, je trouve ça assez fort de voir des rassemblements de personnes qui ont la même opinion et qui viennent s'opposer au gouvernement actuel. Pourquoi pas ? Ceci étant dit, les débordements qui ont eu lieu, parce qu'ils sont trop nombreux sur les réseaux sociaux, on peut le voir soit sur les réseaux... En fait, c'est des débordements qui ont lieu à l'intérieur des manifestations, mais qui sont ensuite reliés par les réseaux sociaux. Des débordements racistes, on voit des gens insulter une femme noire au volant. Je trouvais ça mais d'un autre siècle, vraiment. Cette histoire où les manifestants ont tapé sur la voiture alors qu'il y avait une gamine à l'intérieur, et où la mère a simplement foncé dans le tas, et évidemment, une personne est décédée de suite de ça. Pour moi, la mère n'est pas coupable. Il y a tout un tas de choses comme ça. Après, si tu me parles de gilets jaunes qui font la chenille sur un passage piéton dans la petite commune de Blois, pas de problème.
Moi, j'ai envie de sortir un petit exemple avant de vous expliquer exactement mon point de vue. Prenons l'exemple de Jacques. Jacques, c'est un Parisien. Jacques, il vient d'acheter une voiture à 14 000 euros, une Peugeot 208 1,6 Blue HDI 100 allures. C'est le nom de la voiture. Une voiture qui a 5 chevaux, qui roule au diesel, qui a 50 litres de réservoir pour l'essence et qui fait du 3,5 litres au 100 km/h. Jacques a envie d'aller à Clermont-Ferrand. Jacques va donc partir de Paris pour aller à Clermont-Ferrand et faire 400 km. Le prix du diesel aujourd'hui est en moyenne à 1,45 le litre. Jacques va donc dépenser 20,30 € pour faire son trajet. D'accord ? Si Jacques ne respecte pas les limitations de vitesse, Jacques paiera 26,10 € en augmentant de 10 à 15 km/h en augmentant son allure de 10 à 15 km/h. En conclusion, qu'est-ce qui se passe ? Si on regarde les réformes qui ont été mises en place depuis quelques temps par Emmanuel Macron, la route qui a été baissée, les limitations de la route qui ont été baissées de 90 km/h à 80 km/h pour les voies à double sens, ici déjà, on sait qu'on a une augmentation sur 400 km de 6 €. 6 €, c'est énorme. C'est énorme, on est d'accord. Je veux dire, 6 €, ne serait-ce que sur 400 km, sur un plein, ça fait énormément d'argent.
Viens-en au fait.
Je viens au fait. Finalement, si on part juste de ce principe-là, en disant que si on roulait littéralement aujourd'hui aux allures qui sont aujourd'hui légales, à savoir avec les bonnes limitations de vitesse, et bien finalement, on paye moins cher que ce qu'on payait il y a 2 ans, que ce qu'on payait il y a 10 ans, que ce qu'on payait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Avec l'augmentation de la technologie, l'augmentation de la qualité des voitures, des moteurs, avec la transformation des essences, finalement, on paye moins cher. Alors, tout ça, pourquoi ? Finalement, les gens protestent, pourquoi ? Ils protestent parce que le gouvernement a augmenté de quelques centimes le carburant. En France, on s'indigne donc pour une histoire de taxes. De taxes, 20% sont reversées à l'environnement. Finalement, 20% sont aussi... 40% vont à l'État pour le budget global qui finance les routes, les services publics, les aides sociales. 40% aux collectivités locales qui financent les routes aussi, les services publics aussi et l'éducation. Finalement, moi, je trouve ça assez drôle de remarquer cette bêtise humaine. L'État peut-il fixer vraiment le pétrole comme il entend ? On critique l'État, mais derrière, sait-on vraiment que finalement, le pétrole est indexé sur des prix qui sont fixés par l'étranger ? Nous, aujourd'hui, en France, on est en incapacité totale de produire du pétrole nous-mêmes. On est obligé de l'acheter à des pays étrangers, et notamment à l'acheter au Moyen-Orient, comme on achète le gaz à la Russie. Ce qui fait que forcément, on dépend d'une économie qui n'est pas la nôtre. Donc, on ne peut pas, nous, choisir les prix du carburant puisqu'on l'achète à un autre pays. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, l'État est obligé, avec tout ce qui se passe d'un point de vue géopolitique et économique, au Moyen-Orient notamment, est obligé d'augmenter légèrement les taxes pour pallier en fonction des variations économiques. Parce que imaginez, aujourd'hui, vous payez 1,45 le litre de diesel, peut-être que dans 2 semaines, vous allez le payer 1,20 et dans 3 semaines, 1,80. Ce fait que l'État est obligé de faire des variations pour permettre à avoir une essence qui reste quand même à un prix assez fixe. Finalement, on a quoi ? On a des gilets jaunes qui sont d'une manière absolument autoritaire face aux Français. Ils bloquent la route, ils empêchent les gens d'avancer. Ils empêchent les gens d'avancer qui ne portent pas un gilet jaune. Mais ça veut dire quoi? Où est notre liberté? Où est la liberté du Français qui a envie de se rendre à son travail, qui a besoin de se rendre au supermarché, qui a besoin de faire une course, qui a besoin d'amener sa fille chez le médecin? Où est justement la liberté d'un Français qui se retrouve face à des gilets jaunes, à des mecs tout simplement débiles qui bloquent la route? Oui, manifester. La manifestation et le fait de manifester est un droit en France. Il faut le respecter. Manifester sur des rues, dans des voiries, manifester devant des endroits publics comme ils ont pu le faire devant l'Élysée, manifester en bloquant des péages et en offrant la gratuité aux Français. Oui, je dis oui et je dis oui. Mais bloquer des gens qui sont là, qui ont l'obligation d'aller travailler, qui n'ont pas pu le faire le samedi 17 novembre, qui n'ont pas pu le faire le dimanche, qui n'ont pas pu le faire le lundi, qui ont besoin de ça pour vivre, eh ben je trouve ça lâche, je trouve ça ridicule et je trouve ça complètement con, parce que finalement, si on regarde les réformes qui sont en train d'être mises en place, l'augmentation n'est pas si énorme que ça. Et moi, j'ai envie de vous dire, quand on critique l'État en disant qu'il ne fait rien pour l'écologie, mais que derrière, on critique les taxes qui sont mises en place aussi pour l'écologie, eh ben je trouve ça complètement débile. Ça s'appelle du populisme, et voilà, et je suis contre.
Big up à tous les Français qui, comme moi, n'en pensent pas grand-chose.
C'est l'heure du super méga giga.
Super méga gros coup de cœur.
Moi, mon super méga gros coup de cœur de la semaine, il est... Putain, j'ai l'impression que je vais vous parler de Casimir après que Guillaume se soit emporté hein, comme ça sur les gilets jaunes. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de 10%. 10% c'est quoi? C'est une série au tip-top. C'est la saison 3 qui est sortie la semaine dernière, du moins le premier épisode, avec Jean Dujardin d'ailleurs. Donc c'est assez cool. Et ce 10%, c'est une série en fait qui met en scène des agents à la suite de la mort, hein, c'est pas un grand spoiler, de la mort du directeur et de l'actionnaire principal de l'agence. Quatre des agents d'artistes, en général c'est des artistes français, se retrouvent dans moult et moult galères. Et je trouve personnellement, en ayant déjà vécu la vie d'agence, en ayant eu personnellement un agent, enfin même des agents, je peux vous dire que c'est assez fidèle, même si on vient du net, si on vient de la musique, si on vient de trucs, etc. C'est assez fidèle. Là, ça se focus vraiment sur le cinéma français. Un épisode égale une nouvelle problématique avec un artiste. Donc il y a Fabrice Luchini qui est passé, il y a Julie Gaillet, il y a Joe Star.
Jean Dujardin dans la nouvelle saison.
Voilà, Jean Dujardin, comme je le disais, fait l'ouverture de cette saison 3. Et... voilà, c'est très cool. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le voir. Tous les épisodes sont désormais disponibles sur Netflix. Et si vous venez du Canada, ça s'appelle ici « Appelez mon agent ».
Non, c'est vrai.
Oui,
c'est horrible. Je ne sais pas pourquoi.
Parce que 10% étant évidemment la part que prennent les agents sur les cachets des artistes.
Super méga coup de cœur.
Je vais vous parler de Lord of War. C'est un film au Québec, Seigneur de guerre. C'est un film franco-germano-américain qui a été écrit et réalisé par Andrew Niccol sur le trafic d'armes et qui est sorti en 2005. Son acteur principal, qu'on connaît tous, Nicolas Cage, est incroyable dans ce film. C'est l'histoire d'un homme, Yuri Orlov, et de son frère Vitaly, qui sont nés dans l'Ukraine soviétique durant la guerre froide. Finalement, leurs parents immigrent aux États-Unis, à New York, pour être précis, et ils vont tenir un petit restaurant. Ils sont passés pour juifs, parce que c'est toujours plus facile de se faire passer pour juifs quand on quitte l'Union soviétique. Et ils vont s'installer, voilà, comme ça, aux États-Unis, essayer de vivre dans un petit resto, ne pas faire d'argent. Et puis, il y a de plus en plus de tueurs à gages dans le coin, à Brooklyn, à cette époque-là. Ils savent pas comment faire, etc. Et à un moment donné, le personnage interprété par Nicolas Cage, Yuri Orlov, va découvrir que l'arme à feu est un business de malade. Tout simplement parce qu'il va voir des gens se faire tuer autour de lui et qu'avec une simple balle, les gens en auront toujours besoin de balles. Et donc finalement, il se lance dans le trafic d'armes et il essaye de trouver un moyen de fournir des armes à tous les pays les moins dignes, type le Libéria et ce genre d'autres pays un peu glauques. Et c'est un film assez impressionnant parce qu'il montre à quel point finalement tous les États sont soudés les uns aux autres pour vendre des armes aux plus faibles, parce que c'est en vendant des armes aux plus faibles qu'ils arrivent à régler des guerres, puisque quand il y a deux pays qui s'opposent et qu'on vend des armes aux deux autres pays, on sait que les deux autres pays vont s'entretuer avant de trouver finalement un accord de paix. Ça présente pas mal de choses. On a l'impression d'avoir justement un trafiquant d'armes qui n'en a absolument rien à faire de sa famille, de sa vie, qui est addict à ça, qui ne peut plus, limite plus s'en sortir, qui voit ses proches mourir, mais qui finalement ne sera jamais arrêté par la police. C'est vraiment impressionnant à quel point ce film est bon. Il est extrêmement bien tourné, il dure 122 minutes, ça se voit vraiment très très bien avec un petit verre de vin blanc sur votre canapé, et finalement quand vous le finissez, vous vous rendez compte que le monde est cruel.
Super méga coup de cœur.
Du coup on se casse.
On dit au revoir, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours au même moment.
Toujours à la même heure, toujours au même endroit. C'était le point G, animé par Gaspard Grandpré et Guillaume Ménage.
Bisous, bisous, bisous.